Eh bien, ce soir, donc, puisque notre frère Philippe est aux États-Unis, donc je vais juste apporter une étude qui, là aussi, ça me tenait à cœur de l'apporter. Ça fait un petit moment que je réfléchis à ce sujet-là et je l'ai intitulé Pourquoi je crois? Pourquoi je crois? Hein, ça pourrait paraître évident pour quelqu'un comme moi qui ai grandi dans une famille chrétienne, avec un père qui était pasteur, de se dire, bon, c'est normal que lui aussi, il croit en Dieu. Cependant, ce n'est pas forcément le cas, hein, dans toutes les familles de pasteurs, que les enfants suivent dans le même chemin, dans la même voie, hein, que leurs parents. Et on pourrait se dire que, ah oui, effectivement, c'est normal hein, que les enfants suivent cette voie-là, mais comme je dis, ce n'est pas toujours le cas. Et pour ma part, c'est sûr que j'ai grandi dans une famille où, oui, depuis tout petit, on me parlait de Dieu, depuis tout petit, on m'a parlé de la Bible, on m'a expliqué hein, ce que la Bible enseignait, on m'a raconté les récits historiques qu'on trouve dans la Bible, les enseignements de Dieu pour l'humanité, etc. Mais il a fallu quand même, à un moment donné, que moi-même je fasse un choix. Le choix de croire et le choix de me conformer à ce que Dieu nous présente dans sa parole. Hein, et que petit à petit, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est venu subitement, je crois qu'il y a une progression aussi dans notre démarche de recherche de Dieu, de comprendre qui il est et ce qu'il attend de nous. Hein, et puis parfois aussi, hein, il y a des hauts et des bas, hein, il y a des moments où on n'est pas forcément, on va dire, prêt à se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Et donc oui, c'est différent pour chacun. Et je crois que si on demandait à chaque chrétien, même dans notre assemblée, de nous donner hein, leur témoignage, ils auraient tous une histoire peut-être similaire, mais pour beaucoup, ce serait des témoignages différents hein, concernant leur foi en Dieu. Mais ce que l'on constate, c'est que à travers le monde, la spiritualité demeure une question majeure de la vie humaine, n'est-ce pas? On peut aller sur n'importe quel continent, on va trouver une forme de spiritualité ou une autre. Et donc la foi, la spiritualité, c'est quelque chose qui a notamment aussi traversé les siècles, hein, aussi loin qu'on peut aller en arrière dans l'histoire, on trouve la foi hein, sous une forme ou une autre qui a été présente à travers les cultures, à travers les peuples. Et donc la foi, la spiritualité, c'est quelque chose qui a impacté la vie de milliards d'êtres humains et qui a même façonné l'histoire de l'humanité. Alors là, pour l'instant, je parle bien sûr de la foi, de la spiritualité, en termes très généraux, n'est-ce pas? Toute religion va se présenter comme une source de paix et de prospérité. Hein, c'est comme ça que beaucoup de religions vont se présenter en cherchant de nouveaux adeptes, hein, de nouveaux convertis, hein, pour qu'ils deviennent membres de leur religion. Mais les religions sont également décriées par une grande partie de l'humanité comme étant la source des conflits, comme étant la source d'abus dévastateurs. Et c'est quelque chose qui, effectivement, va diviser ou va unir hein, les êtres humains. Hein, c'est quelque chose qui va diviser ou unir des familles, quelque chose qui va diviser ou unir des amis. Et encore aujourd'hui, hein, c'est un sujet qui, même dans notre pays, reste un sujet qui est, j'ai pas envie de dire tabou, mais presque. C'est-à-dire que, oui, toi, tu as ta religion, mais n'en parle pas. Si je suis intéressé et que j'ai des questions à te poser, je t'en parlerai. Aujourd'hui encore, à travers le monde, ce sont même plus de 10 000 religions distinctes qui ont été recensées. Alors bien sûr, on ne va pas étudier 10 000 religions au cours de cette étude. Mais parmi les différentes foi qui existent dans le monde, plus de la trois quarts hein, de la population mondiale va adhérer à l'une des religions suivantes. Le christianisme, qui va représenter 31%. Et quand on parle de christianisme, hein, on englobe, on va être très généreux là aussi, on va englober hein, toutes les églises qui se disent chrétiennes. L'islam, 24%, l'hindouisme, 15%, et le bouddhisme lui-même, environ 7%. On sait que ces chiffres vont varier d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Bon, bien sûr, hein, il y a l'histoire, les cultures, etc., qui expliquent ceci. Mais si on regarde un autre pays, ici en France, un récent sondage a révélé que 37% de la population croit en une divinité, contre 31% qui se dit athée. Alors bien sûr, il y a également ceux qui ne croient pas qu'il soit possible de connaître de Dieu, hein, c'est ce qu'on appelle des agnostiques. Hein, c'est-à-dire, ils ne croient pas qu'on est capable de connaître Dieu, hein, et que ils prennent pas vraiment parti ni pour l'un ni pour l'autre. Ils ont peut-être un intérêt vers Dieu ou vers le fait qu'il n'existe pas, mais ils veulent pas vraiment prendre, faire ce choix. Et donc, les agnostiques, hein, en France, représenteraient à peu près 15% de la population. Mais ce qui était intéressant aussi de noter, c'était que parmi ceux qui y croient en une divinité en France, eh bien, il n'y aurait que 14% d'entre eux qui ont une activité religieuse mensuelle. C'est-à-dire que 14% d'entre eux, au moins une fois par mois, vont avoir une activité religieuse, vont aller à l'église, à la mosquée, au temple, etc. Ce que l'on constate, que ce soit en France où la plupart, on va dire, des pays occidentaux, l'intérêt pour la foi, l'intérêt pour la spiritualité est quelque chose qui a grandement décliné. Hein, ces 75 dernières années, on a vu les églises se vider, on a vu hein, des cultures être, on va dire, façonnées selon des codes moraux qui ne sont plus issus hein, d'une foi. Et bien sûr, tout cela, ça accentue un certain ostracisme, c'est-à-dire hein, la mise à part, la mise de côté, hein, le rejet hein, de ceux qui veulent vivre leur spiritualité, veulent vivre leur foi et la partager. Alors je sais, certains vont me dire, mais Pasteur Baudelaire, aujourd'hui on est en France, on est dans un pays laïque, et la laïcité, c'est oui, la séparation de l'Église et de l'État, mais c'est aussi une garantie de la liberté pour chacun de croire en ce qu'il veut. Et c'est vrai, nous avons cette garantie-là par la loi, une loi qui a été votée en 1905 en France et qui donne cette liberté-là. Mais ce que nous constatons également, c'est qu'il y a de plus en plus d'obstacles hein, qui se dressent et de difficultés qui sont mises en place pour mieux contrôler, on va dire, hein, les religions et les croyances des personnes, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Ce que l'on voit, c'est que, bien malheureusement, hein, la question de la religion, une question qui peut fâcher beaucoup de personnes, eh bien, la religion est quelque chose qui est grandement délaissé et de plus en plus délaissé. Alors regardez avec moi hein, ce passage de 2 Timothée chapitre 3 et les versets 1 à 5 où Paul il est en train d'avertir Timothée, de l'encourager aussi à se préparer. C'est un encouragement pas seulement pour Timothée, mais pour chaque chrétien à travers les siècles. Ça a été un encouragement, un avertissement hein, pour nous. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors oui, on pourrait dire qu'à travers l'histoire et à travers les siècles, je suis sûr que les chrétiens, il y a peut-être 400 ans, se disaient que, ah oui, on est dans ces derniers jours-là, hein, les gens sont vraiment comme ça. Et puis, nous aussi, hein, mes parents, je suis sûr qu'ils ont pensé ça également, hein, quand ils ont vécu à travers les années 60 avec les grands bouleversements sociaux, culturels, mais aussi avec eh bien, les crises politiques, hein, les crises entre les pays, hein, entre le bloc soviétique et puis le bloc occidental. Beaucoup auraient pu se dire, oui, on est dans les derniers jours. Mais chose qui est intéressante, c'est que oui, si on regarde à notre société aujourd'hui et qu'on regarde ce dont Paul ici parle à Timothée, on pourrait facilement cocher. Est-ce que les gens sont égoïstes? Ah ben, on a l'impression que c'est de plus en plus. Est-ce qu'ils sont amis de l'argent? Ah ben, alors là, oui, de plus en plus. Est-ce qu'ils fanfaronnent? Bah oui. Est-ce qu'ils sont hautains? Bah oui. Blasphémateurs? Bah, alors là, blasphémateurs. On est entré dans un cran encore au-dessus, hein, par rapport à même il y a 10, 15, 20 ans, là. Rebelles à leurs parents. Hein, on voit des familles qui sont détruites parce que ils n'ont pas su mettre en place un système éducatif de pouvoir vraiment montrer et enseigner à leurs enfants déjà comment bien se comporter en famille pour bien se comporter en société. Et on a des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Hein, qui n'hésite pas non plus bon, à les voler ou à les frapper, etc. Bon, bref, vous aurez compris, hein, toutes ces choses-là, ingrats. Mais ce que je voulais souligner, et que vous avez dans vos notes, c'est bien mis en gras, irreligieux. Irreligieux, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas d'une religion. Ils vivent, et si on regarde ces descriptifs, ils vivent pour eux-mêmes. Ils vivent pour eux-mêmes. Et donc en tant que chrétien, même si ben, le contexte actuel des choses hein, nous semble difficile, déjà, je rappelle ça à chaque fois, notre situation en France, ce n'est pas la même que celle de nos frères et sœurs dans d'autres pays où la persécution, elle est réelle. Hein, notre situation par rapport à l'Afghanistan, ce n'est pas la même chose. Quand nous étions en Auvergne et que nous étions à l'étude biblique dans l'assemblée là, de mon beau frère et belle-sœur, ils font une chose intéressante, c'est que bon, il y a cette organisation qui s'appelle Portes Ouvertes, si vous ne connaissez pas, c'est une organisation qui va présenter les situations de persécution à travers le monde que des chrétiens subissent. Okay? Et donc chaque semaine, bon, ils font le topo sur un pays différent. Et là, il s'agissait de l'Afghanistan, Pakistan, Pakistan. Et là, la persécution, elle est réelle. Je veux dire, par exemple, si vous êtes chrétien aujourd'hui, en France, il n'y a personne qui a été chassé de sa maison parce que le voisin vous a accusé de blasphème contre la religion dominante du pays, hein, et que pour beaucoup, hein, ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Hein, beaucoup ont perdu leur maison, beaucoup sont forcés dans une autre religion. Nous ne vivons pas ces choses-là en France et nous pouvons remercier le Seigneur pour cela. Nous pouvons et nous devons prier pour nos frères et sœurs dans ces pays où la persécution est réelle. Nous n'avons pas d'interdiction hein, de nous réunir, de pouvoir ouvrir la Bible, de pouvoir parler de choses spirituelles, de partager notre foi avec les uns et les autres. Donc la situation actuelle ne doit pas non plus nous refroidir, mais elle devrait nous encourager justement à partager notre foi. Parce que nous voyons ces changements qui se sont produits dans notre société. Nous voyons les effets d'une politique ou d'une autre. Nous voyons les effets hein, de l'adoption d'une certaine culture et de mœurs et ce que ça produit dans la société. On en discutait dans la voiture là aussi, hein, par rapport au harcèlement dans les écoles. Et les gens qui se demandent, mais comment est-ce qu'on va pouvoir endiguer ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir changer cela? Ben, je leur souhaite bon courage sans avoir un fondement moral qui ne change pas. Parce que ça, c'est pour moi une des grandes choses, c'est que le fondement moral que Dieu nous donne dans sa parole, c'est quelque chose qui ne change pas, qui a traversé les siècles. Mais aujourd'hui, on vit dans une époque où, ben, s'il y a une majorité de personnes qui pensent que, voilà, ça maintenant c'est acceptable, ben, tout le monde doit l'accepter. Et donc, on a un système où la question de la moralité et des mœurs, ça change, ça fluctue selon ce que les gens. La majorité des gens pensent, ou ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Je vois pas comment ils vont pouvoir justement aider dans ce problème du harcèlement scolaire, parce qu'on a déjà des enfants qui ont grandi depuis la maternelle, et ça va jusque plus loin dans l'université, ensuite dans la vie professionnelle, mais ils ont grandi avec cette idée, je peux faire ce que je veux, sans avoir de conséquences. Je peux faire du mal à lui, me moquer de lui, sans qu'il y ait de conséquences. Pourquoi? Parce que on n'a pas la crainte de quoi que ce soit. En tant que chrétien, nous avons une certaine crainte, et ce n'est pas une crainte de peur et d'épouvante. C'est une crainte qui est respectueuse de l'autorité que Dieu a sur nous. Hein, cette même crainte qu'en tant qu'enfant, on doit avoir envers ses parents. On sait qu'ils nous aiment, mais on sait que si on va faire des bêtises, ils vont nous châtier pour ces bêtises. Okay? Mais là, notre société, elle change et elle se précipite dans une situation qui est alarmante, hein, qui va apporter un grand désarroi de plus en plus dans les familles. Mais lisez encore une fois ce que Paul dit à Timothée, le chapitre suivant, au chapitre 4, les versets 1 à 3, il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Ça veut dire que moi, voilà, en tant que quelqu'un qui croit et qui croit en Dieu, qui croit en Jésus-Christ, eh bien, j'ai cette responsabilité-là de partager ma foi, mais aussi d'expliquer pourquoi je crois. Et donc, parmi les objectifs que cette étude vise à atteindre, c'est le fait donc d'expliquer pourquoi je crois, mais aussi de rechercher à atteindre trois buts ici. Première chose, c'est de susciter la foi en Jésus-Christ chez ceux qui ne l'ont pas. Désolé, je vais avoir la faute d'orthographe, de grammaire là. Susciter la foi. L'évangile de Jean, hein, lorsque Jean a rédigé cet évangile, vers la fin, au chapitre 20, verset 31, il dit la raison pour laquelle il a rédigé cet évangile. Il dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, hein, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, premier objectif, hein, c'est d'aider à susciter la foi chez ceux qui ne l'ont pas. Deuxième, ça va être de raffermir la foi de ceux qui doutent. Parce qu'effectivement, on est dans une société, et on vit à une époque où de plus en plus de personnes, de chrétiens, chrétiennes, ont des doutes, et notamment parce que on a un grand accès à, on va dire, une certaine information ou désinformation avec l'Internet, c'est-à-dire qu'on a des gens très subtils qui vont attaquer la foi chrétienne, et beaucoup de chrétiens arrivent à douter, hein, de la réalité de l'existence de Dieu, ou de douter, hein, de l'autorité des Écritures, etc. Et encore une fois, lorsque Paul il a écrit sa deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, verset 16, et il explique la raison de la parole de Dieu en disant que toute écriture est inspirée de Dieu, et notez bien, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, donc elle suscite de la conviction dans notre cœur, elle va corriger également, hein, corriger ce qui ne va pas dans notre vie, instruire également dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et puis, troisième objectif, hein, c'est d'aider ceux qui veulent partager leur foi. Parce que beaucoup de chrétiens, on va dire, ils sont convaincus de ce qu'ils croient, mais n'ont pas forcément les informations ou les idées ou les arguments pour partager leur foi, pour défendre leur foi. L'apôtre Pierre, dans sa première épître au chapitre 3 et verset 15, il dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et c'est un verset que j'ai appris à apprécier, parce qu'il nous rappelle que lorsqu'on va partager notre foi, ce n'est pas pour nous d'essayer de gagner un débat théologique. Ce n'est pas pour nous de, quelque part, rabaisser l'autre par rapport à ce qu'il croit ou ce qu'il ne croit pas. Mais nous devons être prêts à défendre ce que nous croyons avec la bonne attitude, la douceur et le respect de l'autre. Et ça, croyez-moi, c'est quelque chose qui a grandement disparu, hein, de notre société. Le fait d'avoir un échange d'idées et de respecter l'autre, même si on ne croit pas ou on n'adhère pas ou n'accepte pas les idées de l'autre. Douceur et respect. Et c'est surtout ensuite devant quiconque vous demande raison. S'il y a bien une chose que le monde, on va dire, croit à tort, c'est le fait que la foi est d'abord quelque chose d'aveugle, que la foi, c'est quelque chose qui est infondé, que la foi, c'est quelque chose qui est illogique. Mais là, le mot que Paul emploie, c'est le mot raison. Quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et donc, on a les moyens pour nous, eh bien, de défendre ce que nous croyons et de le défendre d'une manière logique et de le défendre avec douceur et respect, avec l'amour du Seigneur. On n'est pas là pour convaincre les autres, on est là pour montrer ce que la Bible enseigne. S'il y a une personne qui doit convaincre les gens, et c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est que c'est Dieu lui-même. C'est son Esprit Saint qui fait cette œuvre-là dans la vie des gens. Et donc, comme plan d'étude que nous allons avoir, la première chose que nous verrons, c'est l'évidence de l'existence de Dieu. Hein, ça va être le point de départ, c'est est-ce que Dieu existe ou non? Ensuite, c'est eh bien la révélation naturelle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se révèle à travers la création, à travers la nature. Troisième point, ce sera la révélation verbale de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, hein, s'est révélé à l'humanité, hein, et que l'être humain a eu l'occasion d'entendre ce que Dieu avait à dire pour eux. Et puis finalement, eh bien, le christianisme qui va bien au-delà de la religion. Hein, on a parlé qu'il y a 10 000 religions à travers le monde, mais le christianisme biblique, ne se présente pas comme une religion. Il y a une personne qui est centrale à toute la foi, et c'est Christ. On n'est pas en train de prêcher une église, on n'est pas en train de prêcher une religion, tout comme Paul, nous prêchons Christ. Et donc, Dieu voulant, hein, la prochaine fois, nous allons commencer cette première section sur l'évidence de l'existence de Dieu. Et nous verrons donc plusieurs choses, hein, des raisons pour lesquelles, eh bien, tout comme moi, beaucoup sont ceux qui croient en l'existence de Dieu. Nous allons donc conclure cette étude ce soir par un mot de prière. Et ensuite, nous pourrons donc nous saluer les uns les autres.